Bonsoir, les téléphones portables sont-ils vraiment inoffensifs pour la santé? C'est une étude très attendue qui le dit aujourd'hui. Les chercheurs suisses concluent que le portable n'est pas dangereux. Pourtant, les rayonnements ont un impact sur l'ADN. Ils peuvent nuire au fœtus également, nous disent les chercheurs. Comment faut-il comprendre les résultats publiés aujourd'hui? C'est ce qu'on va tenter de voir tout à l'heure avec le physicien Pierre Zweiecker. Ce sera en ce début de forum. Neuchâtel-Xamax passera ce soir en main tchétchène. Et puis déjà une victime, l'entraîneur Didier Olenikol vient d'être licencié. On va recevoir un homme qui a longtemps incarné le club, Gilbert Gress, l'entraîneur des belles années. Et puis deux hommes pour débattre de l'opportunité de vendre un club à un oligarque tchétchène. Le socialiste Andreas Gross, membre du Conseil de l'Europe, et l'avocat d'affaires genevois Dominique Varluzel. Le roi d'Espagne a fait connaissance aujourd'hui avec les rigueurs de la météo bernoise. Juan Carlos et son épouse sont en visite d'État pour deux jours en Suisse. Grand ami de la Suisse, le roi d'Espagne, qui a poussé l'amitié jusqu'à se laisser rincer littéralement sous les trompes d'eau de la place fédérale. Notre correspondant à Berne, Vincent Bourquin, nous fait le récit de cette visite royale. Schengen est toujours le sujet qui fâche, en Europe comme en Suisse d'ailleurs. Les pays membres étaient réunis aujourd'hui à Bruxelles. Les discussions furent vives, comme on dit en langage diplomatique. Le Danemark a déjà décidé spontanément de renforcer sa frontière. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga nous dira si la Suisse va emboîter le pas. Et puis, on demandera à un pro-européen, oui on en a trouvé un, le président du Nomes Genève, Yann Gessler, si cette Europe rêvée n'est pas en train de se déliter sous nos yeux. Mathieu Cuplin, 12h30, nous disait comment le tribunal administratif fédéral aura pris finalement trois longues années pour enfin trancher sur le projet du CEVA à Genève, un projet pourtant crucial, jugé urgent. Les juges prennent-ils leur temps en Suisse? C'est le débat qui opposera à 18h45 le porte-parole du tribunal fédéral administratif fédéral Andrea Arcidiacono et le député genevois pro-CEVA Gabriel Barillet. Soljenitsyn, le courage d'écrire, c'est le titre de l'exposition que la Fondation Bodmer à Genève consacre à ce géant de la littérature. Georges Niva, le commissaire de l'exposition, il nous rejoint en direct sur le coup des 18h40. Enfin, on entendra l'appel de l'un des principaux opposants au régime syrien, c'est un El-Assad, lui aussi, Ribal de son prénom, cousin de Bachar, qui dirige la Syrie. Frédéric Blassel l'a rencontré à Zurich. Le soleil revient demain, il fera 22 degrés maximum, ce ne sera qu'un répit, le week-end sera froid, 18 degrés samedi, 15 degrés dimanche, de la pluie à volonté. La météo d'Éric Fauchère à la fin de ce forum.
Forum, Philippe Reva, Laurent Keller.
C'est sous la pluie que le roi d'Espagne Juan Carlos et son épouse la reine Sofia ont entamé aujourd'hui leur visite d'État en Suisse. Après les honneurs militaires reçus sur la place fédérale, ils ont été salués par le Conseil fédéral avant de rejoindre pour les discours la salle des pas perdus. La cérémonie a commencé par une minute de silence en hommage aux victimes du tremblement de terre survenu hier dans la province de Murcie. Vincent Bourquin, vous avez suivi cette visite d'État aujourd'hui.
Alors les relations entre la Suisse et l'Espagne sont au beau fixe, mais ce n'était pas le cas du temps ici à Berne. Les spectateurs étaient moins nombreux que prévu pour écouter notamment les hymnes que vous entendez actuellement. Et le roi Juan Carlos s'est fait littéralement rincer lorsqu'il a défilé pour les honneurs militaires. Il a en effet refusé d'être accompagné par un porteur de parapluie. Micheline Calmiret a elle été plus prudente et c'est toujours sous la pluie que le roi, vous l'entendez, a fait un rapide bain de foule. La pluie, mais aussi le sport à l'honneur. En attendant l'arrivée du souverain, la fanfare militaire avait en effet joué « We are the champions » des Queen, probablement en hommage à l'Espagne, championne du monde de football, malgré une défaite, on s'en souvient, contre la Suisse. D'ailleurs, dans son discours sur les relations entre les deux pays, Micheline Calmiret a elle aussi évoqué le sport.
À propos de sport, c'est un Suisse, Hans Gamper, qui a fondé le FC Barcelone, club qui représente cette année l'Espagne en finale de la Ligue des Champions. Avant de s'installer en Espagne, Hans Gamper avait évolué pendant des années au sein du FC Bâle, qui porte les mêmes couleurs que le FC Barcelone, le rouge et le bleu. À propos sport encore, Vos Majestés, nos deux pays excellent grâce à deux joueurs de très haut niveau en tennis. Nadal, Federer, Federer-Nadal et de plus en plus, hélas, Nadal.
Et plus sérieusement, Micheline Calmiret a aussi remercié l'Espagne pour son soutien dans la crise avec la Libye.
Je me dois ici de mentionner l'engagement sans relâche de l'Espagne dans le conflit qui a opposé la Libye à la Suisse et qui a trouvé une issue heureuse avec la libération des deux otages suisses l'année dernière. Vous-même, Majesté, n'avez pas ménagé vos efforts et j'aimerais renouveler mes remerciements pour cette magnifique preuve d'amitié.
À l'évocation de l'alibi, on a alors vu le roi Juan Carlos hocher la tête et esquisser un léger sourire. Le roi Juan Carlos qui a débuté son discours, comme l'avait d'ailleurs fait Micheline Calmiret, en rendant hommage aux victimes du tremblement de terre survenu hier soir à Lorca.
España vive en efecto momentos de dolor y tristeza.
L'Espagne vit effectivement un moment de douleur et de tristesse. Permettez-moi de réitérer publiquement, en mon nom et en celui de la reine, nos pensées aux victimes du tremblement de terre survenu hier dans la localité de Lorca, en Murcie. Nous exprimons notre grande solidarité à toutes les familles des victimes et un rétablissement rapide aux blessés.
Le monarque a encore parlé d'un développement extraordinaire des relations entre la Suisse et l'Espagne depuis sa première visite d'État en 1979. Et un homme a particulièrement apprécié toute cette cérémonie, le conseiller national libéral radical Christian Lucher. Présent un peu par hasard dans la salle des pas perdus, heureux comme un enfant, il a pu s'approcher tout près du roi Juan Carlos et il a multiplié avec son téléphone portable les photos du monarque.
Vincent Bourquin en direct du Palais fédéral, merci.
L'électrosmog n'est pas nuisible pour la santé. C'est une étude très sérieuse qui le dit. Elle a été présentée ce matin par des chercheurs des universités de Zurich et de Bâle, financée par le Fonds National Suisse de la Recherche. Elle a cherché, cette étude, à saisir l'impact quotidien du rayonnement électromagnétique et notamment celui des 9 millions de téléphones portables en Suisse. Résultat, certains processus biologiques sont influencés, mais pas d'impact négatif sur le sommeil ou de lien entre maux de tête et utilisation de son portable. Alors de quoi rassurer les utilisateurs que nous sommes pratiquement tous ? Ou de conforter peut-être les sceptiques. On voulait y voir plus clair avec vous, Pierre Tsvayaker, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez vu cette étude, vous êtes spécialiste du rayonnement électromagnétique, adjoint scientifique à l'EPFL, physicien. Pas de danger, titre les dépêches, avec les téléphones portables, on peut dire ça ce soir ?
Bon, ce qu'on peut dire à la suite d'une telle étude, c'est que certains effets biologiques ont été mis en évidence, mais qu'on n'a pas mis en évidence d'effets pathologiques. Donc c'est la différence entre un effet biologique, c'est-à-dire un effet qui est observable sur un organisme vivant, mais sans qu'il y ait forcément détérioration de la santé. Maintenant, quand on découvre pas quelque chose, ça veut pas forcément dire qu'il y a rien. Mais dans le cadre de cette étude, effectivement, il n'y a pas d'effets pathologiques qui ont été mis en évidence.
On va trop loin quand on dit pas nuisible pour la santé.
Pas nuisible pour la santé, selon les connaissances actuelles, disons, si on veut être prudent.
Parce qu'on a vu des choses étonnantes, alors on n'est pas spécialiste, mais il y a des cassures sur l'ADN qui se produisent à cause de ces ondes, mais en même temps, ça ne modifie pas vraiment le noyau, c'est ça qu'on peut résumer comme ça ?
Bon, disons que les cassures ADN, il y en a sans arrêt. Chaque fois qu'une cellule se reproduit, il y a des brins d'ADN qui sont cassés. Maintenant, c'était aussi une grande polémique de savoir comment des rayonnements électromagnétiques pouvaient casser des brins d'ADN, parce qu'en fait, l'énergie dans ces rayonnements non ionisants, elle est en principe pas suffisante pour faire ça. Et est-ce que c'était à montrer, c'est que c'était un effet indirect. C'est un effet qui est bel et bien existant, mais qui est indirect, c'est-à-dire que les rayonnements électromagnétiques de certaines fréquences peuvent accélérer ou renforcer le processus naturel de ces cassures de brins d'ADN.
Alors, ouais, on veut bien que ce soit pathologiquement qu'il n'y ait pas de suite, mais enfin, on n'a pas envie de se faire briser ces brins d'ADN, c'est tout de même un peu inquiétant.
Ouais, c'est-à-dire que probablement il y a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas qui jouent aussi un rôle du même genre, hein, de pollution, la chaleur, le fait de s'exposer au soleil, ou des tas de choses qui peuvent jouer le même rôle. Donc tant qu'on n'arrive pas à voir que ça nuit à la santé, on ne peut pas dire qu'il y a véritablement un danger.
Tiens, on fait une revue de pair, une peer review comme ça avec vous spontanément. Vous trouvez comment cette étude, vous l'avez lue peut-être ou du moins résumée, est bien faite, elle est convaincante, comment vous la jugez ?
Ah oui, elle a été faite très sérieusement, mais bon, on peut toujours contester des résultats d'études, hein, parce que dans une étude, vous avez une multitude de paramètres, on essaye de contrôler ce qu'on peut, mais il y a toujours des hypothèses, hein. On suppose que tel paramètre ne joue pas de rôle, donc on le néglige, etc. Et le résultat, c'est que quand vous avez deux groupes de recherche, parce qu'en science, c'est toujours comme ça. Une preuve, c'est la convergence de plusieurs études. Et quand vous avez plusieurs études qui sont faites indépendamment l'une de l'autre et puis qu'elles arrivent à des résultats contradictoires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une différence quelque part qui n'a pas été prise en considération. Donc, comme c'est assez fréquent, on peut dire qu'il y a rarement une étude qui a tenu compte de tous les paramètres possibles.
Dans le domaine des téléphones portables, on tâtonne encore vraiment pour connaître les conséquences sur la santé ?
Oui, bien sûr, oui, on tâtonne. On peut dire qu'on tâtonne parce qu'on ne connaît pas vraiment le mécanisme biologique qui permettrait un rayonnement électromagnétique d'interagir avec des composants fondamentaux de la matière vivante. Et puis, si on observe des effets à l'échelon d'un être humain, par exemple, c'est généralement pas le même genre d'effet que ceux que, auxquels on s'attend dans la vie quotidienne, parce que dans une expérience de laboratoire, vous mettez des champs relativement élevés pour obtenir des effets à court terme, alors que dans la vie quotidienne, on attend plutôt des effets à long terme, avec des intensités faibles. Et puis, en plus de ça, il y a le problème des rayonnements de superposition, tous les rayonnements. Hein. Dans une expérience de laboratoire, on utilise un ou deux rayonnements superposés au maximum, simplement parce que c'est très complexe. Alors que dans la vie, effectivement, on baigne dans une superposition de champs dont on ne connaît pas vraiment les effets combinés.
Une réaction sceptique, hein, c'est celle d'une association qui s'appelle Médecins en faveur de l'environnement. Eux se disent préoccupés et disent les enfants ne devraient pas utiliser le téléphone portable ou alors seulement en cas d'urgence, parce que c'est un peu le problème qu'on a avec ces études, c'est que les portables, c'est depuis les années 2000, à peu près 99-2000, on a peu de recul, on ne sait pas ce qu'il en sera dans 20 ans, dans 30 ans.
J'aimerais bien savoir ce que c'est un cas d'urgence pour un enfant. C'est parce qu'il a d'urgence besoin d'une sucette, par exemple.
Il ne devrait pas du tout en utiliser ou...
Je crois que c'est irréaliste. Bon, les parents ont le droit d'interdire à leurs enfants d'utiliser des téléphones, hein. C'est toujours possible, mais je crois que la plupart des gens n'estiment pas avoir des raisons suffisante pour le faire.
Pourtant, Pierre Tsariaka, on a l'impression, entre guillemets, pour parler vulgairement, que les États se couvrent dans ce domaine-là. Par exemple, le site internet de l'Office fédéral de la santé publique dit très clairement, n'utilisez pas votre portable à l'oreille, utilisez toujours une oreillette. Pourquoi est-ce qu'on fait ces recommandations alors ?
Ben, on fait ces recommandations, disons, ça signifie qu'on peut facilement réduire la nocivité si elle existe ou l'impact par des moyens qui ne sont pas vraiment... problématique, hein, j'entends. On pourrait dire utiliser une oreillette, bon, ben, ça réduit à peu près de 10 fois le champ au niveau du cerveau. Maintenant, on peut trouver que c'est pas très pratique aussi. Je sais pas, si vous avez votre téléphone dans votre poche, il faut tout de suite brancher un fil, etc. Bon, c'est une question de goût, mais disons, c'est ce qu'on appelle en anglais le principe as low as reasonably possible, c'est-à-dire faire les choses de manière à ce que ce soit le moins nocif possible, même si on sait pas exactement quelle est la nocivité.
Vous êtes physicien, vous connaissez bien ce domaine. À votre enfant ou à un enfant, vous conseilleriez de ne pas utiliser de Natel. Vous-même, est-ce que vous en utilisez souvent à l'oreille ?
Bon, moi j'utilise, j'en ai un, mais disons, j'ai jamais été un accro du téléphone, même quand il était fixe. Donc je l'utilise quand j'ai besoin de l'utiliser, quand la radio romande m'appelle pour participer à forum, par exemple, mais à part ça...
À vos amis, vous conseilleriez...
Non, moi je ne conseille rien. En tant que scientifique, je n'ai pas à donner de conseils. J'ai à donner des résultats d'études, mais pas des conseils. Après, chacun interprète ses résultats selon sa perception.
Il y a un résultat qui est intéressant dans cette étude, Pierre Tsariaka, c'est les cuisinières à induction qui pourraient avoir là des effets néfastes sur les fœtus.
Oui, bon, les cuisinières à induction, on sait déjà qu'elles posent un petit problème. C'est-à-dire que si la casserole est en très bon état et qu'elle est bien centrée sur le feu, il y a très peu de rayonnement autour. Maintenant, toutes les casseroles sont peut-être pas en bon état, elles sont pas toujours bien centrées. Pour les femmes enceintes, c'est aussi un problème, ça c'est un problème plus général, c'est que dans les études, quand on a des échantillons de population, on n'a jamais des enfants, parce que rares sont les parents qui sont disposés à prêter leurs enfants pour faire des expériences de laboratoire. On n'a pas de femmes enceintes, on n'a pas de personnes qui sont atteintes de certains types de pathologies, donc les échantillons de population sur lesquels se font ces études sont jamais vraiment représentatifs de l'ensemble de la population. Et je crois que la conclusion là, dans ce cas-là, c'est qu'il faudrait poursuivre ces études. Ça a été fait uniquement par modélisation, hein. Donc il n'y a pas de femme enceinte qui a été exposée à des rayonnements pour voir ce que ça donnait sur son fœtus. Je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de volontaires. Mais ça a été fait par modélisation. Maintenant, les modèles, on sait aussi qu'ils peuvent toujours être contestés, qu'ils reposent sur certaines hypothèses qui ne sont pas forcément réalistes.
Je me souviens vous avoir reçu il y a quelques mois ou semaines, Pierre Tsariaka. À un moment donné, il y avait une étude, je crois que c'était allemande, qui traitait d'une modification de noyaux de cellules avec des ondes. Mais c'était dans un récipient, hein, c'était un test de laboratoire. Là, manifestement, l'étude suisse ne va pas du tout dans cette direction-là. Elle est plus rassurante.
Bon, oui, enfin, elle est rassurante. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'effet pathologique qui a été mis en évidence. Il y a quand même un effet biologique à partir d'un certain niveau, un effet biologique qui se répète, peut-être trop souvent, peut finir par devenir pathologique à long terme. Mais justement, ces études de laboratoire vont jamais chercher dans le long terme. Mais cela dit, c'est pas spécifique au rayonnement électromagnétique, hein. Sur les cosmétiques, sur les additifs alimentaires, sur les textiles, on n'en sait pas plus à long terme.
On avait reçu récemment le professeur Chop au sujet des ces nanoparticules qu'on met dans les crèmes solaires, ouais, notamment. Hein,
oui, les nanoparticules aussi, ça pose un problème, disons, ça pose des questions sur les effets à long terme.
Je vous remercie beaucoup d'être venu nous éclairer quelques instants, Pierre Zweiecker, physicien. Excellente soirée.
Au revoir.
Plusieurs sujets sur la table des ministres en charge de Schengen, l'élargissement des possibilités de contrôle aux frontières nationales, l'amélioration des contrôles aux frontières extérieures de Schengen. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga était présente aujourd'hui à Bruxelles, on l'entendra. Mais d'abord Alain Franco, vous êtes notre correspondant auprès des institutions européennes. Est-ce qu'on se dirige vers une réforme de Schengen ?
Oui, sans aucun doute. La réforme déjà sur les rails est accélérée par les récents événements, notamment le différend franco-italien sur le traitement des migrants tunisiens. La tonalité au Conseil aujourd'hui, ça a été le fonctionnement de Schengen a besoin d'être amélioré, mais Schengen est une des plus grandes avancées européennes qu'il faut préserver. Reste à savoir comment l'améliorer. Alors il y a plusieurs pistes. Le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de Schengen en étant plus solidaires. Les pays de l'intérieur, Allemagne, Pays-Bas, Suisse par exemple, doivent aider les pays de la bordure, la Grèce, Italie ou Malte. Autre solution proposée par Paris et Rome, élargir les possibilités de contrôles nationaux, rétablir les contrôles aux frontières parfois. Alors personne au Conseil n'a jugé que c'était une mauvaise idée, mais disons qu'elle ne déclenche pas l'enthousiasme. On va y travailler, mais ce ne sera possible que dans des cas limités et en dernier recours. La Suisse n'est pas contre, mais à condition que chaque pays reste maître de la décision, qu'elle ne soit pas déléguée à la Commission européenne. Plusieurs ministres ont même averti aujourd'hui, attention à ne pas déclencher un effet domino. Exemple, l'Allemand Hans-Peter Friedrich a mis en garde contre une spirale dangereuse. Un pays qui ferme sa frontière fait peser de nouvelles pressions sur les frontières de son voisin, qui est lui-même tenté d'en faire autant. C'est la fin de Schengen.
On constate que l'Allemagne n'est pas sur la même ligne que la France, c'est inhabituel.
Oui, en fait, jusque récemment, elle était sur la même ligne. Mais entre-temps, le Danemark a surpris tout le monde en annonçant hier soir le rétablissement de contrôles douaniers permanents à ses frontières avec la Suède et avec l'Allemagne pour contrôler, dit le ministre, les voitures suspectes. Alors à ce stade, personne ne comprend vraiment ce qu'il en est, mais la mesure qui touche directement l'Allemagne a pu soudainement faire prendre conscience qu'il faut être très très prudent avec les réformes de Schengen, un accord qu'on pourrait rapidement vider de sa substance si on n'y prend pas garde.
Alors à partir de là, faut-il considérer qu'il y a un danger pour Schengen ? C'est la question, Alain Franco, que vous avez posée à Simonetta Sommaruga après le Conseil des ministres. Voici sa réponse.
Je ne dirais pas que le système Schengen est en danger, mais peut-être il est en crise. On voit qu'il y a des choses qui marchent bien, mais des choses qui marchent peut-être pas comme on voulait ou qu'on avait prévu. Et j'ai senti une grande volonté de différents pays que là où on a des lacunes, on a des choses à régler peut-être plus clairement, que là on a une volonté de faire ce travail. Et c'est aussi dans l'intérêt de la Suisse.
Quelle réforme faut-il faire justement ?
Il faut renforcer les frontières extérieures de Schengen. Pour la Suisse, c'est la façon la meilleure marché aussi pour faire ce travail. Mais on a aussi à clarifier les mécanismes d'évaluation, de voir est-ce qu'il y a peut-être certains points de frontières qui ne marchent pas bien et qu'est-ce qu'il faut faire là. Alors ce système Schengen, je crois que c'est une occasion, c'est une chance maintenant aussi de faire des réformes qui vont fortifier le système Schengen. On a vu que la Commission est en train d'examiner des possibilités. Est-ce qu'il faut des mécanismes où on peut plus protéger encore les frontières à l'intérieur. Alors pour la Suisse, il faut savoir, ça serait très très cher. Mais je crois que ces mécanismes, il faut les examiner. Je pense que dans le tout, d'abord, il faut faire le tout pour renforcer les frontières à l'extérieur, tous les pays ensemble. Mais si on a des possibilités, peut-être temporaires, de voir comment est-ce qu'on peut mieux protéger nos frontières, nous, on va examiner ces propositions. De toute façon, ce qu'on ne va pas accepter en Suisse, c'est que ce soit l'Union européenne ou la Commission qui décidera qui peut protéger ses propres frontières. Alors là, cette compétence, on ne va pas la déléguer à l'Union européenne.
Protéger, renforcer les contrôles aux frontières extérieures, vous dites que vous êtes pour. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que la Suisse est prête à aider la Grèce ou Malte qui ont des problèmes à contrôler leurs frontières ?
Il faut savoir que la Suisse a déjà fait des pas comme ça. Elle a offert à Frontex, à cette organisation de protection aussi, de soutenir cette organisation avec deux hommes qui sont des gardes frontières, qui sont partis pour l'Italie. J'ai annoncé ce matin qu'on serait d'accord aussi d'examiner de nouveau, d'envoyer quelqu'un à Malte et ça a été très bien reçu par la Malte. Le ministre de la Malte, il m'a remercié déjà. Alors je crois que dans ce sens, la Suisse, elle a déjà fait ses pas et elle va aussi continuer à faire ça parce que ça, c'est aussi dans notre intérêt.
Simonetta Sommaruga, interrogée par Alain Franco, et on ajoute que la conseillère fédérale s'est engagée cet après-midi au cours d'une réunion spéciale à accueillir en Suisse une vingtaine de réfugiés venus de Libye et qui se trouvent actuellement à Malte.
Et avec nous, Yann Gessler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du NOMES à Genève, le nouveau mouvement européen suisse.
Merci,
Et on entend un bruit parasite en même temps. Ben voilà, bonne soirée, dit-on à quelqu'un qui a pris congé tout à l'heure dans nos écouteurs. Tout autre chose, Yann Gessler, vous êtes président du NOMES Genève. Vous avez entendu ce qui se passe du côté de Bruxelles. Drôle d'image, l'Europe. Est-ce qu'elle vous fait encore rêver quand vous voyez ce qui se passe maintenant avec Schengen? On a l'impression plutôt que ça va sur la mauvaise pente.
Mais écoutez, vous utilisiez tout à l'heure le mot de délitement de l'Union européenne. Je crois que c'est quand même un peu tôt pour avoir ce genre de propos. C'est vrai que il y a une crise majeure dans certains pays comme la Tunisie, la Libye, etc. et que ces crises sont instrumentalisées par certaines formations politiques. Je pense au Danemark où le Parti du peuple danois a utilisé cette question. C'est un parti anti-immigration, anti-européen et ils utilisent cela pour remettre en place des politiques sécuritaires et nationalistes. Il y a un certain nombre d'intérêts contradictoires de la part des États européens eux-mêmes. On voit que toute la charge du contrôle de l'immigration se reporte sur des États frontaliers qui se situent aux frontières extérieures de l'Union européenne.
Il n'y a plus de solidarité finalement.
Alors ça, c'est la vraie question, et je crois que Simonetta Sommaruga a raison. Je veux dire, c'est la solidarité qui va jouer. Schengen est en crise parce qu'on a une crise de l'immigration, mais la libre circulation n'est pas remise en cause en tant que telle. C'est une instrumentalisation, et c'est vrai que c'est facile pour certains pays qui ne sont pas aux frontières extérieures de l'Union de faire reporter finalement toute la charge et tout le problème sur d'autres pays.
Mais Yann Gessler, au-delà de l'instrumentalisation, il y a des partis effectivement qui jouent beaucoup là-dessus, d'ailleurs peut-être aussi en Suisse. Ouais. On a entendu des Sarkozy, des Berlusconi. Au Danemark, c'est le gouvernement quand même qui décide de renforcer sa frontière. Les pays ne jouent plus le jeu en Europe.
Mais je ne crois pas qu'ils ne jouent plus le jeu. Je crois qu'encore une fois, on a une crise de l'immigration et que c'est forcément en tant que crise que des problèmes se révèlent et que des intérêts contradictoires se révèlent. Maintenant, la libre circulation, c'est une des libertés fondamentales de l'Union européenne. C'est aussi une des spécificités de l'Union européenne. Et il serait effectivement grave que pour des intérêts politiques, de politique intérieure ou des intérêts économiques pour capter des fonds d'entraide européens, cette liberté soit remise en cause. Là, effectivement, il ne faudrait pas que les États membres de l'Union européenne jouent avec le feu.
Mais Yann Gessler, année électorale, le thème de l'Europe est déjà remisé aux oubliettes par beaucoup de partis. Plus personne n'ose s'affirmer pro-européen aujourd'hui, on les cherche, on les trouve très difficilement.
Il en
reste quelques courageux isolés, Yann Gessler. On a l'envie de vous dire, mais finalement, l'UDC avait raison, le temps lui donne raison, même sur Schengen, elle semble avoir raison, même l'Europe elle-même n'y croit plus qu'à moitié.
Mais je ne crois pas, je crois qu'il faut pas oublier que face au défi de la question migratoire, il ne peut y avoir que des solutions qui sont collectives et qui sont dessinées à l'échelle du continent européen. Je crois que ce serait vraiment une grave illusion et une grave erreur que de se replier sur le plan national pour tenter de régler cette question. Je veux dire, c'était très bien expliqué tout à l'heure, s'il y a un État ferme ses frontières, la pression migratoire sera remise sur un autre, etc. On aura une espèce d'effet domino et ce n'est pas ça une bonne gestion de ce défi qu'est la migration.
Yann Gessler, comment on le vit quand on est président d'une section cantonale du NOMES, Genève en l'occurrence, cette année? C'est un peu l'annus horribilis pour vous. Comment est-ce qu'on maintient la flamme? Vous avez encore des adhérents que vous allez essayer de convaincre. Comment vous tenez le coup finalement?
On a des adhérents et on en a gagné, je crois pas qu'on a pas en tout cas une crise d'adhésion à la section genevoise du NOMES. Et c'est vrai que ce qui est un tout petit peu frustrant, disons, quand on voit le débat européen dans les médias, c'est qu'on fait beaucoup d'amalgames. Pour la crise de la dette publique grecque, par exemple, on a parlé de crise de l'euro. Or, il s'agit pas d'une crise de la monnaie européenne en tant que telle, il s'agit de crise de déficit public de pays membres.
Ou enfin de pays membres qui ont l'euro comme monnaie.
Oui, mais en tant que tel, c'est pas l'euro qui est la cause, disons, de ces problèmes-là.
Mais elle est fragilisée par eux.
Elle est fragilisée, mais c'est par voie de conséquence. Donc, c'est vrai que pour un pro-européen ou un spécialiste des questions européennes, c'est des fois un tout petit peu frustrant ou agaçant de voir que finalement, on rend un peu l'Europe responsable de tout. C'est ce que fait d'ailleurs l'UDC dans toutes ses campagnes, en faisant de l'Union européenne un bouc émissaire. Et je pense qu'on ne manquera pas de le voir dans la campagne pour les prochaines élections fédérales.
C'est un apostolat, votre fonction, Yann Gessler.
On essaye. Il faut garder la flamme, comme vous dites.
Ben c'est ce qu'on vous souhaite en tous les cas. Yann Gessler, vous êtes président du NOMES Genève. Je vous remercie d'être venu quelques instants défendre cette vision européenne au Forum. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Lausanne-Genève, un accident s'est produit entre l'échangeur d'Écublan et la jonction de Morges-Est en direction de Genève. Des colonnes se sont formées à l'approche de ce tronçon. Les secours et le dépannage devraient durer jusqu'à 19h environ. En sens inverse, un autre accident bloque toujours la voie de gauche entre Lausanne-Crissier et Villars-Sainte-Croix en direction d'Yverdon. Un important bouchon reste constaté à l'approche de ce secteur. Il remonte actuellement jusqu'à la jonction de Morges-Est. Neuchâtel-Xamax, le club de football, passe ce soir aux mains de l'homme d'affaires tchétchène Boulat Tchagaïev. Le rachat doit être entériné lors de l'assemblée générale du club dans une heure. Et déjà, une victime, on vient de l'apprendre. L'entraîneur de Neuchâtel-Xamax, Didier Olé-Nicole, vient d'être licencié. Il paye sans doute la lourde défaite d'hier soir 4-1. Mais c'est toujours la reprise du club par des capitaux tchétchènes qui inquiète à Neuchâtel. On va en parler avec plusieurs invités. Mais tout d'abord, Gilbert Gresse avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une figure, une légende du club, Gilbert Gresse, entraîneur notamment dans les grandes années de Xamax. Vous, votre réaction quand vous avez appris ce rachat par des Tchétchènes ?
Bon, écoutez, vous savez, je suis un peu éloigné de Neuchâtel-Xamax, parce que Neuchâtel-Xamax actuellement, c'est pas le Neuchâtel-Xamax que moi j'ai connu il y a quelques années. À l'époque, ce cas de figure se posait pas. On avait un président qui était là depuis des années. Le club est dirigé d'une façon très simple, avec un président, un directeur sportif et moi-même, et les décisions se prenaient entre ces trois personnes.
C'est le bon temps.
C'était le bon temps. Il n'y a pas, à l'époque, il n'y avait pas les agents des joueurs qui faisaient la pluie et le beau temps. Et ça a beaucoup changé depuis.
Quand on voit que dans le conseil d'administration, bon, deux membres dans le conseil d'administration, mais il n'y aura que deux proches du nouveau repreneur, pas de Neuchâtelois, ça en va de l'identité d'un club aussi?
Mais bien sûr. Je crois que les grands clubs, quand même, il y a toujours une identification. Je pense au Bayern de Munich, où du haut en bas, par l'entraîneur, c'est tous des anciens joueurs du Bayern de Munich. Quand je vois Barcelone, c'est un peu dans le même cas. Et puis il y a d'autres clubs, comme le Racing Club de Strasbourg, que j'ai bien connu également, qui actuellement se trouve en troisième division, où il n'y a pas non plus d'anciens joueurs du club. Et c'est un peu regrettable, ça c'est sûr.
Le foot moderne, il est moins sympathique qu'autrefois, Gilbert Gresse. On ne va pas paraître passéiste, mais c'est moins bien aujourd'hui.
Vous savez, le football moderne, c'est que sur le terrain, ça n'a pas tellement changé. On parle toujours de football moderne, et moi je dis toujours, mais le football est moderne depuis quand? Depuis un an, 10 ans, 20 ans. Ça a surtout changé, et ça, là vous avez raison, c'est-à-dire autour du terrain. Là, ça a changé, bien sûr. J'ai parlé avant des agents, des joueurs, qui sont vraiment le cancer du football actuellement. Alors, j'ai vu dernièrement, enfin hier ou avant-hier, j'ai vu sur le télétexte que le président, enfin l'ancien président maintenant de Xamax, parlait de connaissance du football et tout. Moi j'ai toujours pensé que le président n'est pas obligatoirement un ancien footballeur, doit connaître le football, il doit tout simplement savoir s'entourer. Et je crois que le président qui était à Xamax n'a pas su choisir les bonnes personnes pour s'entourer. Quoi.
Gilbert Gresse, il n'y a pas là derrière tout le problème des échanges de joueurs, des transferts, l'arrêt Bosman aujourd'hui, des meilleurs joueurs s'en vont. On est dans Ligue B, Ligue C, voire Ligue D. En Suisse, on est obligé d'accepter n'importe qui pour reprendre un club, où que ce soit.
C'est vrai que l'arrêt Bosman a fait beaucoup de tort au football en général, et surtout au football des petites nations, des petits clubs, si vous voulez. Parce que c'est vrai, ce qu'on a connu à Xamax à l'époque, avec des joueurs de très haut niveau, des joueurs suisses de très haut niveau, aujourd'hui serait presque plus possible, parce que ces joueurs-là ne seraient plus malheureusement en Suisse. Et là, j'encourage vivement Michel Platini, qui veut faire un système 6+5, donc des anciens, des joueurs qui sont formés au club. Et je ne sais pas si ça passe, parce que Bruxelles a passé par là, vous comprenez, c'est Bruxelles qui dirige tout, alors même le football, et c'est regrettable.
Oui, c'est la liberté de travailler partout, finalement, voilà. On ne peut pas plus tellement revenir en arrière. Vous êtes triste, Gilbert Gresse, ce soir?
Non, écoutez, ça ne me touche absolument pas, parce que là, je suis vraiment très loin de Neuchâtel-Xamax. Non, je ne suis ni triste, non, ça ne me touche pas du tout.
Je vous remercie d'être venu témoigner quelques instants. Une bonne soirée, Gilbert Gresse.
Merci.
Et deux invités avec nous pour poursuivre, c'est Dominique Varluzel, avocat, et Andreas Gross, conseiller national socialiste zurichois et membre du Conseil de l'Europe pour la Suisse, délégué pour la Suisse à ce Conseil. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Andreas Gross connaissait très bien la région, le Caucase, la Russie avec le Conseil de l'Europe. Les violations des droits de l'homme, ça vous connaît aussi là-bas, vous avez pas mal étudié. Vous avez une réaction sur la reprise ce soir par un Tchétchène, un homme d'affaires tchétchène de Neuchâtel-Xamax?
Oui, moi je suis totalement perplexe de la manque de sensibilité, au manque de réaction, au manque de Oui, sensibilité pour le fait que on vend le club à une dame d'affaires, comme on dit, qui est totalement proche de la du président du Tchétchénie, qui est un dictateur pur et net, qui a du sang à ses mains, qui même torture les gens qui s'opposent à lui, qui dirige une économie totalement dirigée, autoritaire. Moi, je trouve ça incroyable. Et j'oublie pas qu'on a dit après, ou vis-à-vis le printemps du peuple arabe, que maintenant il faut arrêter de se flatter les dictateurs, qu'il faut trouver une nouvelle relation avec les dictateurs. Et maintenant, on laisse prendre un club sympa de Neuchâtel-Xamax par un Tchétchène. Moi, je suis touché et moi, je suis triste. Moi, je suis triste que M. Grèce, que j'aime énormément, que j'ai admiré comme entraîneur, comme joueur à l'aile gauche du VfB Stuttgart, qu'il n'est pas plus touché, qu'il est indifférent. Je ne pense pas qu'on peut se permettre ça.
Dominique Verluzel, vous êtes avocat, vous êtes peut-être un regard un peu plus, je ne vais pas dire cynique, mais disons pragmatique sur les choses. Vous avez l'impression qu'on en fait trop contre ce monsieur Tchagaïev ?
Mais on en fait beaucoup trop, mais c'est de surcroît le débat est tout à fait déplacé. À entendre mon interlocuteur, j'ai eu l'impression que c'était Fidel Castro qui venait de racheter le club. Je crois avoir lu que ce n'était pas tout à fait le cas. Il se trouve que l'ensemble du football suisse dit de haut niveau, qui hélas n'est plus de haut niveau, est en état de sinistre économique et de naufrage absolu. Ont disparu successivement de l'élite, Servette, Lausanne, Sion, avant de renaître, heureusement.
Et comment, oui.
Et quand vous êtes en état de naufrage, quand vous êtes seul sur un bombard dans l'Atlantique, vous ne demandez pas au capitaine du cargo qui vient vous sauver ses documents d'identité. Donc il en va de la survie du club. À partir du moment où un repreneur se présente, un repreneur, je le sais, pour avoir présidé le Servette il y a 20 ans, c'est quelqu'un qui accepte de perdre beaucoup d'argent en un minimum de temps. Alors si un repreneur se présente, mais qu'il prenne.
Non, mais alors là, du coup, c'est très cynique, Dominique Verluzel, ça veut dire on regarde pas d'où vient l'argent, par exemple ?
Mais je crois que nous avons des banquiers qui sont formés, paraît-il, à une lutte féroce contre le blanchiment. Nous avons des intermédiaires financiers, catégorie à laquelle j'appartiens, qui eux aussi se sont vus en signer un devoir de vigilance et la façon de la déployer. Alors, sauf à dénoncer, non pas mon cynisme, mais celui des banquiers ou des interlocuteurs économiques de ce repreneur, je ne vois pas comment ces flux économiques et ces capitaux passeraient au travers. Je compte sur la vigilance de nos banquiers pour avoir fait, accompli ce qu'on appelle leur obligation de diligence. Ça veut dire savoir d'où viennent les fonds, comment ils ont été acquis, comment ils ont été gagnés. C'est ça la diligence des banques suisses.
Andreas Gross, il y a des règles. Si M. Tchagaïev est en Suisse, c'est qu'il les respecte.
Oui, d'abord, je pense pas qu'on peut faire, confiance à la vigilance des banquiers après qu'on a vécu avec les banquiers dans les dernières 3 ans. Alors ça, c'est un peu naïf peut-être, pas cynique. Et la deuxième chose, moi, je viens de rencontrer des voisins de ce monsieur de la Tchétchénie qui a acheté une énorme villa au bord du lac Léman. Ils ont aussi ils aimeraient savoir d'où vient cette richesse. Qu'est-ce que ça veut dire si on vend le bord aussi des maisons à les meilleures, les plus jolies côtes de notre pays à ces gens. Et moi, je pense pas, je doute que le Xamax était vraiment dans le naufrage. Mais même dans le naufrage, je prenais pas l'argent de tout le monde. Parce que si vous prenez cet argent, si vous servez de cet argent, vous devenez complice d'un système anti-humain, un système oppressif, un système que c'est pire que Fidel Castro. Moi, j'étais jamais en Cuba parce que je savais que je serais dans la prison de Fidel Castro. Mais c'est encore beaucoup plus pire. C'est vraiment la dictature pure et nette. Et c'est un copain du Kadyrov qui utilise la qualité du pétrole tchétchène qui, il y a 30 ans, servi d'avion militaire soviétique à cause de sa qualité. Il fait énormément de l'argent avec ce pétrole et des autres matières premières. Et je trouve pas qu'on peut se permettre ça. Il faut, et je suis sûr que les spectateurs de Neuchâtel Xamax, ils aimeraient pas lier leur club, leur passion à une telle dictature. Et je trouve que c'est grave. Et je trouve que mon interlocuteur, il sous-estime totalement l'impact que ça veut dire pour l'identité du Xamax et pour l'image du Xamax et aussi pour la relation entre les citoyens neuchâtelois. Un canton et république très européen, très ouvert, très solidaire avec leur club.
Alors votre interlocuteur, c'est Maître Dominique Varluzel, il vous répond maintenant.
Mais c'est de la xénophobie répressive et sous la forme d'une sorte de présomption raciste, n'est-ce pas ? Puisque on postule qu'à partir du moment où tel acteur économique est ressortissant de telle ou telle nation, l'impureté de ses capitaux est garantie, et puis les accepter, c'est faire alliance à un régime politique qui est celui de son pays. Donc, c'est un raisonnement suffisamment bref pour que je m'abstienne de le commenter, parce que ça n'a tout simplement aucun sens.
Oui, il se dit frère quand même du leader Kadyrov en Tchétchénie, hein, monsieur Tchagaïev.
Non, certes, mais vous savez, tous les Russes qui ont émigré en Suisse, me dit-on, sont proches de Poutine. Je ne sais pas comment ce pauvre Poutine fait avec pareil encombrement, parce qu'ils déferlent par centaines. L'examen des capitaux qui soient déversés dans l'immobilier, c'est sans doute regrettable, en tant que ça affecte la réalité du marché, qui monte singulièrement. Qu'ils soient déversés dans la vie sportive, doivent être examinés au vu des critères qui sont ceux que l'Association suisse des banquiers a posés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de révolte à l'idée, par exemple, que Servette soit en main étrangère, ou si d'aventure notre ami Constantin était approché par un oligarque russe, est-ce qu'il faudrait présumer que le valet perd son identité, sa probité économique ? Certainement pas. C'est un examen qui doit se faire donc de cas en cas, individuellement. Il y a des Russes purs, impurs. Il y a aussi des Suisses scélérats. L'histoire criminelle l'a prouvé.
Andreas Gross, c'est le béaba, ça.
Les Tchétchènes ne sont pas une race. Les dictateurs ne sont pas une race. Être contre dictateur, ça ne veut pas dire qu'on est raciste. Moi, je trouve votre relation, votre attitude assez irresponsable. Moi, je trouve que c'est notre liberté de renoncer à la fraternalisation avec des gens qui ont fait leur argent par l'oppression, par la répression. Ils sont un peu capables. Pas que vous étiez une fois là, vous connaissez pas la Tchétchénie, vous connaissez pas comment et d'où vient cet argent. Et je vous conseille de l'aller voir, de parler avec les citoyens, de parler avec ceux qui étaient torturés par ce régime.
Mais c'est le président tchétchène, monsieur, qui a repris Neuchâtel Xamax.
C'est un copain. On peut pas faire un sou en Tchétchénie sans complaisant, sans soutien du monsieur Kadyrov. On parle maintenant de la Tchétchénie. C'est une qualité spécifique de la dictature, argent, politique, policiers, militaires, paramilitaires. Vous ne pouvez pas vous imaginer ça. Il semble que vous ignorez quelque chose.
Pourquoi est-ce que les banquiers suisses acceptent d'ouvrir des comptes et de recevoir les capitaux qu'ils y déposent?
Maintenant, on parle du Xamax Neuchâtel.
Pour acheter un club de football, il faut passer par une banque. C'est préférable.
Ouais, on parle maintenant de l'effet et j'ai été interpellé avec la question qu'est-ce que je pense. Moi, je suis un grand fan du foot depuis 40 ans. Qu'est-ce que je pense de cela? Et je suis humilié, je suis triste, et je suis touché. Et je pense pas qu'on peut sortir avec l'indifférence ou avec le cynisme ou avec l'ignorance du problème.
Andreas Gross,
mais quand tous les clubs suisses seront en 18e division, je pense que vous pleurerez d'autant plus chaudement.
Je deviens modeste. Je sais que il faut changer des choses dans le football européen aussi. Mais là, Monsieur Gress, il a raison. Moi, j'ai soutenu déjà même Monsieur Blatter avec des idées, parce qu'on peut faire, on peut développer des idées là-dessus, mais il faut aussi devenir modeste. Moi, je suis sûr qu'un Xamax pas touché l'argent sale, par l'argent du sang, peut encore jouer très très bien, et les spectateurs, ils ont plaisir, ils remplissent même la maladière.
Oui, Dominique Varluzel, je vous propose qu'on interrompe là ce débat. Je vous remercie beaucoup d'être venu avec nous en direct, Dominique Varluzel. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, Andreas Gross, peut-être une petite question encore à vous. Vous ne serez pas candidat au Conseil des États à Zurich contre notamment Christophe Blocher. Vous ne serez pas candidat pour le PS qui vous a préféré un inconnu. Enfin, c'est le maire d'une commune qui est beaucoup moins connu que vous en tous les cas. Vous allez quand même essayer de vous faire nominer, mais c'est en fin de semaine, la décision finale.
Le congrès, c'est samedi et il faut être proposé par une partie du district. Le district de la ville de Zurich, pour dire comme ça, la direction du parti de la ville décide aujourd'hui, ce soir. Je pense pas que je suis candidat parce que le parti a choisi une autre conception de la campagne.
Vous le regrettez?
Oui, parce que j'ai personnifié la campagne qui voulait lutter contre le nationalisme, contre la politique de la peur de l'UDC. Mes camarades, ils ont plutôt préféré une autre manière à faire la campagne, à essayer de ignorer ou à marginaliser l'UDC. Moi, je pense pas que c'est ni possible ni souhaitable, mais je dois accepter la décision de la majorité.
Andreas Gross, conseiller national socialiste zurichois, vous êtes installé à Saint-Ursanne d'ailleurs.
Donc seulement mes bouquins, m'a beaucoup écouté. Moi, je suis encore juridiquement totalement à Zurich, mais je travaille en Europe et comme ça, je ne peux pas être toujours dans les bistrots zurichois. C'est ça, on me reproche aussi.
Oui, on vous le reproche du côté de Zurich, mais pas à Saint-Ursanne où ils sont très contents de votre présence. Pas toujours. Bon, on en parlera une prochaine fois si vous voulez bien. Je vous souhaite une excellente soirée, Andreas Gross.
Merci aussi. Au revoir, monsieur.
Forum, Philippe Reva, Laurent Keller.
En Syrie, le régime intensifie sa répression. L'armée aurait pris position dans plusieurs villages aujourd'hui. 700 personnes seraient mortes et des milliers interpellées selon diverses ONG. Frédéric Blassel a pu joindre Ribal al-Assad, le cousin du président Bachar al-Assad. Ribal al-Assad est un opposant à sa propre famille. Il est à la tête de l'Organisation pour la démocratie et la liberté en Syrie. Il estime toutefois que la communauté internationale ne doit pas intervenir militairement en Syrie. Il nous dit pourquoi.
La situation en Libye et en Syrie est complètement différente. Ils savent que intervenir en Syrie, cela pourrait conduire à une guerre régionale où l'Iran interviendrait bien sûr au secours de la Syrie, qu'ils ne peuvent pas accepter de perdre, parce qu'à travers la Syrie, ils contrôlent le Liban, ils contrôlent Gaza, ils contrôlent une partie ouest de l'Irak, et ils contrôlent aussi beaucoup d'autres des groupes extrémistes dans la région. Cela, la communauté internationale savent très bien qu'ils interviennent dans la région, ça pourrait exploser partout.
Alors, dans quelle mesure la communauté internationale peut-elle soutenir les efforts pro-démocratiques en Syrie?
Il faut qu'ils continuent comme ils sont en train de le faire maintenant. Il faut pas qu'ils dénoncent à chaque fois que le régime utilise la violence contre le peuple syrien. Je suis pas, par exemple, pour les sanctions qui ont été dernièrement prises par l'Union européenne et par les États-Unis contre les personnes dans le gouvernement syrien. Cela va mettre beaucoup de pression sur le gouvernement syrien et il faudra continuer. S'il n'arrête pas, il faudra continuer et inclure plus de personnes dans ces sanctions.
Vous et votre organisation pour la liberté et la démocratie en Syrie, est-ce que vous seriez pour le régime une menace?
Oui, ils le voient et je crois que c'est pour ça qu'ils sont en train de tout mettre le blâme sur moi personnellement, sur la télévision syrienne dernièrement, à travers de Al-Manar, la télévision des Hezbollah, et des ex-parlementaires libanais qui ont dit que M. Ribal al-Assad, il est au Liban et qu'il est avec Hariri, le camp Hariri, Bandar, tout ça, que c'est lui qui est derrière tout ce qui se passe en Syrie et tout simplement, ils savent très bien qu'on est une menace. C'est-à-dire pour eux, ils nous voient comme une menace. Pourtant, tout ce qu'on fait, c'est de les conseiller, d'essayer de leur ouvrir les yeux, de leur dire qu'il faut changer parce qu'on ne peut pas, on ne vit plus et comme il y a 20 ans ou 30 ans. Vous voyez, aujourd'hui, on est au 21e siècle. Le monde a changé et qu'il faudrait faire partie de ce monde-là.
Voilà, c'était le cousin du président Bachar al-Assad, Ribal al-Assad, interrogé par Frédéric Blassel.
Georges Niva, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le commissaire d'une exposition qui se tient dès samedi à la Fondation Bodmer à Cologny, qui présente, c'est une exposition sur Soljenitsyne, hein, ça s'intitule Soljenitsyne, le courage d'écrire, manuscrit, édition originale. Dites-nous peut-être, Georges Niva, pour commencer, qu'est-ce qu'on va y voir à la Fondation Bodmer sur Soljenitsyne? Qu'est-ce qu'on va y apprendre qu'on ne connaisse peut-être pas déjà?
Je crois presque tout. D'abord, c'est la première fois que des manuscrits de l'écrivain sortent de sa maison, sortent de ses archives, pas seulement sortent de Russie. C'est une proposition que j'avais faite au musée Bodmer, qui a été proposée à Madame Soljenitsyne, qui l'a acceptée, connaissant le musée de Cologny et l'appréciant beaucoup. Donc, je donnerai un seul exemple. Il y a un livre qui a changé le XXe siècle, qui est L'archipel du Goulag, qui est un livre qui a valu sa nouvelle arrestation à l'écrivain, le suicide de sa dactylo, chez qui on avait perquisitionné et saisi ce manuscrit. Eh bien, L'archipel du Goulag, même si on ne l'a pas lu, tout le monde connaît le mot Goulag grâce à ce livre, et même souvent l'expression Archipel du Goulag. Il est là, c'est le manuscrit que l'écrivain a écrit de sa main pendant des semaines et des semaines d'isolement complet en Estonie, dans une ferme estonienne, chez des amis estoniens. Et puis il a dactylographié, photocopié, et c'est sorti sous forme de photocopie, ou plutôt de microfilm, tandis que le manuscrit est resté enterré dans le jardin de la ferme estonienne. Et il est resté 20 ans enterré, eh bien il est là. C'est quand même, vous savez, très impressionnant de le voir.
C'est émouvant aussi.
Oui.
On est un peu à mi-chemin, c'est un peu de la littérature, puis en même temps, c'est un héros de l'histoire elle-même.
Oui, c'est pour ça que l'expression s'appelle « Le courage d'écrire », parce que c'est un courage de vivre indépendant, de protester, d'être un résistant moral et d'écrire. C'est difficilement séparable, disons, chez Alexandre Soljenitsyne. C'était à peu près le même courage de vivre et le même courage d'écrire, et d'ailleurs la même ascétisme de vie, la même économie de vie. C'est un homme qui, très jeune, disons à l'âge de 18 ans, a eu conscience qu'il avait quelque chose à écrire pour rétablir la vérité sur son pays, et ce quelque chose, il l'a écrit après l'archipel, c'est la Roue Rouge. La Roue Rouge est une énorme entreprise à la fois historienne et romanesque. Nous avons le manuscrit ici au musée Bodmer de novembre 16. C'est aussi un manuscrit très impressionnant. On a aussi quelques exemples de sa méthode de travailler, des enveloppes. Il y en a des centaines et des centaines dans ses archives. Et ici, nous en avons une douzaine. Des enveloppes dans lesquelles il met des citations, des expressions tendues, des vocables plus ou moins rares, des dialectismes, les biographies de ces personnages. Il a quand même saisi des centaines de personnages, comme un Balzac, disons.
Et Georges Niva, vous connaissiez personnellement Alexandre Soljenitsyne. Vous étiez même présent sur le plateau de la légendaire émission Apostrophe qu'il a révélée au grand public, en tout cas en Occident. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a été un moment crucial, sa découverte de l'Occident, parce qu'on a l'impression parfois qu'il y avait deux Soljenitsyne, celui de l'Occident et puis celui de la Russie.
Écoutez, sur ce plateau, je crois que tous ceux qui ont vu l'émission de Bernard Pivot et moi qui étais là, l'énergie bondissante de ce résistant moral et littéraire qui venait d'arriver était extraordinaire. C'était vraiment, vous savez, comme un ressort comprimé qui est prêt à sauter. Alors il ne sautait pas, bien qu'il sautait dans son siège, mais cette énergie comprimée, on la sentait très fortement. Et vis-à-vis de l'Occident, il a rapidement été très sévère, disons quasiment aussi sévère qu'il était sévère pour le régime soviétique, mais pour d'autres raisons, bien entendu. Son discours aux étudiants américains à Harvard, ou bien son discours quand il a rendu visite au séminaire russe de Zurich, le disent aussi. Cette énergie, vraiment, c'était le tout premier trait qu'il y avait. Donc je ne dirais pas qu'il y a deux Soljenitsyne.
Quelque chose de mystique dans son travail d'écrivain, dans sa vocation d'écrivain.
Oui, oui. disons, c'est l'assurance profonde de pouvoir changer les choses par son écriture. Alors je dirais que c'est pour ça que l'exposition arrive sans doute à un moment qui est nécessaire, pas seulement pour la connaissance de Solzhenitsyn. C'est quand même un des derniers grands, je ne sais pas comment dire, géants, qui ont pensé que tout seul, il pouvait changer les choses. Et comme il a réussi à changer de façon fondamentale les choses par sa lutte contre le totalitarisme, eh bien, il donne un exemple que, voilà, par la simple volonté d'une personne, on peut changer énormément de choses. C'est une leçon qui, bon, est très nécessaire aujourd'hui.
Georges Niva, je vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter cette exposition. Ben, on va pouvoir aller voir par soi-même. Fondation Bodmer, Colonie, Solzhenitsyn, le courage d'écrire, des manuscrits, des éditions originales, des lettres, des photographies, des objets personnels aussi de Solzhenitsyn. Merci beaucoup Georges Niva.
Au revoir. Merci.
Et nous l'annoncions dans notre édition du 12-30. Le tribunal administratif fédéral, le TAF, devrait prendre sa décision le mois prochain concernant le CEVA à Genève. Le tribunal doit statuer sur des recours contre l'autorisation de construire la ligne ferroviaire transfrontalière. Il aura ainsi fallu 3 ans au TAF pour se prononcer. Et à Genève, beaucoup s'exaspèrent de la longueur de la procédure et se demandent si le tribunal a travaillé avec l'efficacité requise. Alors deux invités pour s'interroger sur cette prétendue lenteur du TAF. Andrea Archidiacono, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Vous êtes le porte-parole du tribunal administratif fédéral. Avec nous également Gabriel Barrier, député radical, membre du comité Pro-Seva. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Gabriel Barrier. Alors, l'arrêt devrait tomber le mois prochain. Votre réaction? On commençait à s'impatienter à Genève. Vous le premier?
Oui, bien sûr. Vous utilisez le conditionnel, ce qui me rassure pas tout à fait. Oui, il faut rappeler que le peuple genevois a plus de 60% accepté cette infrastructure qui est absolument indispensable pour les déplacements, la mobilité de la région, qui va bientôt compter 1 million d'habitants. Le vote a eu lieu le 29 novembre 2009. Les recours, ça a été dit, ont été déposés en juin 2008. Donc il a fallu 3 ans pour que la justice se détermine. Alors je ne vais pas porter de jugement, d'appréciation sur le travail lui-même du tribunal administratif, qui est une nouvelle institution. Ce que je relève, c'est que ces retards ont des conséquences catastrophiques, d'abord sur la réalisation de ce RER qui doit permettre d'ici 5-6 ans de relier plus de 40 gares dans la région franco-valdo-genevoise où l'on compte près de 500 000 franchissements de frontières quotidiens. Deuxièmement, cette réalisation doit permettre de construire cette région. Et puis, je signalerai également que les entreprises qui vont effectuer ces travaux sont prêtes à démarrer. Et dès lors, je souhaite vraiment vivement que le tribunal se détermine au mois de juin et que la décision soit positive. C'est
Andrea,
ça qui est important.
Archidiacono, vous pouvez nous rassurer, ce ne sera pas un conditionnel, c'est du présent. Ce sera donc le mois prochain que le TAF va rendre sa décision. Et on peut se demander, 3 ans, il aurait fallu 3 ans pour statuer. Est-ce que ce n'est pas un peu long, vu l'urgence qu'on connaît à Genève?
Oui, merci. Bonsoir. Je peux confirmer en effet que l'arrêt sur ce dossier important va tomber le mois prochain, le mois de juin. Et il faut considérer que il s'agit d'une procédure complexe avec des questions juridiques, mais des questions aussi techniques importantes à trancher. Et dans chaque phase de la procédure, pour établir les faits et pour respecter le droit des parties à être entendues, il faut procéder à plusieurs échanges d'arguments juridiques.
Vous reconnaissez
et ces deux
certaines défaillances
peuvent expliquer pourquoi cette procédure a duré 3 ans. Et même si ça peut paraître long vu de l'extérieur, un tel dossier nécessite du temps pour être convenablement traité et pour respecter le droit des parties à être entendues.
Vous évoquez la complexité du projet. Juste une question encore, Andrea Archidiacono. On évoque un seul juge qui a travaillé sur ce dossier. Est-ce qu'on n'a pas mis assez de force sur ce dossier? On n'a pas suffisamment priorisé? On n'a pas senti l'urgence?
Mais comme dans tous les dossiers, et ça c'est le cas aussi pour le dossier SEVA, il y a toujours un juge instructeur qui est responsable de tout le travail qui mènera un projet d'arrêt. L'arrêt va être pris avec deux autres juges, donc ça va être un arrêt à trois, et ça correspond aux règles du jeu, procédures au tribunal administratif fédéral.
Gabriel Barrier.
Bon, moi je note d'une part que dans d'autres infrastructures en Suisse, à Zurich, le M2 à Lausanne, sans doute il y a des recours, il n'y a pas eu des délais aussi longs. Par ailleurs, ce délai qui est excessif, moi j'estime que c'est un déni de justice, est très dangereux aussi pour la conviction, pour la confiance que la population doit aux institutions. Il y a eu un vote extrêmement large après une campagne très très passionnée, voilà bientôt 2 ans, et ce temps qui passe sans que rien ne se réalise est de très mauvais augure et débouche sur une défiance de la population à l'égard du fonctionnement des institutions.
On ne voit pas très bien où est le déni de justice. Où est le déni de justice? Vous pouvez préciser. La justice va rendre son verdict dans un mois. Où est le déni?
Oui, mais lorsque un temps pareil se passe, j'entends, on peut se demander si véritablement les conséquences de ces retards ne pourraient, par exemple, sur les coûts de la construction, nous avons déjà voté sur une mise à jour de ces coûts, et on ne sait pas quel sera le résultat de l'arrêté, n'est-ce pas, de l'arrêt. Moi, je souhaite que les opposants soient déboutés, mais encore une fois, tout ceci est au conditionnel, et que le temps qui passe rend difficile la réalisation de ces infrastructures qui sont décidées par le peuple et les autorités.
Andrea Archidiacono, on dit le tribunal administratif fédéral, c'est que c'est une juridiction nouvelle. Là, on a quelques erreurs de jeunesse qui se sont produites. On a eu vent de certaines erreurs, l'envoi de dossiers à de mauvaises personnes. Vous reconnaissez certaines erreurs, de certaines maladies de jeunesse?
Je peux vous assurer que dans ce dossier, les personnes responsables de ce dossier ont travaillé, continuent à travailler efficacement et avec conscience et en respectant les règles du droit qui sont données, les règles de procédure administrative qu'il faut respecter, les droits des parties à être entendus. Chaque année, le tribunal administratif fédéral rend plus de 9000 décisions et il y a certaines décisions qui sont rendues dans des délais plus courts, certaines qui prennent plus de temps. Et il y a toujours la possibilité, c'est aussi un objectif du tribunal administratif fédéral de améliorer son efficacité. En effet, c'est une institution jeune, mais elle est en train de faire ses expériences et elle va sûrement avoir des possibilités d'amélioration dans son efficacité. Ça, on le reconnaît et on essaie chaque année d'améliorer aussi on a réduit le nombre de cas pendant depuis 2007 et je peux vous assurer que c'est un souci important et principal du tribunal administratif fédéral.
Gabriel Barrier, le politique, la justice, attendez un instant, politique, la justice, chacun son rythme. Oui. Faites un peu pression là sur la justice.
Écoutez, c'est très délicat puisque en vertu de la séparation des pouvoirs, hein, quand même un principe cardinal de nos institutions, les politiques que nous sommes, effectivement, nous faisons notre travail, mais nous hésitons beaucoup à entreprendre des pressions, à faire pression sur un autre pouvoir. Donc vous comprendrez que j'ai pris note des assurances d'amélioration qui viennent d'être données, mais je me demande si quand même sur le plan fédéral, il va pas falloir renforcer peut-être les moyens de ce tribunal administratif fédéral qui est très sollicité, il est vrai. Mais ça, c'est une question hautement politique qui doit sans doute se poser, qui se posera si d'aventure on enregistre des retards pareils dans des décisions qui concernent, je vous le rappelle, près d'un million de personnes, des infrastructures qui sont absolument nécessaires pour une région entière, qui est le deuxième pôle économique de la Suisse. Et encore une fois, la population, les gens qui attendent cette réalisation ont beaucoup de peine à comprendre, même comme les excellentes explications données par le porte-parole du TAF. Donc, encore une fois, je souhaite qu'en juin, cet arrêt tombe, qu'il soit positif et qu'on puisse aller de l'avant.
On a bien...
les travaux sont prêts, ils peuvent démarrer encore cette année.
On a bien compris votre impatience, on l'a entendu ce soir. Gabriel Barrier, vous êtes député radical, membre du comité Proceva. Merci également pour vos explications, Andrea Arcigiacono, porte-parole du TAF, le tribunal administratif fédéral. Une très bonne soirée à vous.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci.
La météo, Eric Faucheur.
La journée a connu le passage d'une perturbation qui a amené des averses surtout sur le nord des Alpes. Elle s'est à présent retirée de nos régions. Demain, le ciel se montrera nettement plus ensoleillé partout. On notera tout de même la formation de quelques cumulus dans les Alpes, sinon c'est un temps débordant de rayons qui nous attend. De 7 degrés au lever du jour, le mercure touchera les 22 au maximum. Le 0 degré restera au même point qu'aujourd'hui, soit à 3000 mètres. Pour le week-end, nous retomberons dans une masse d'air instable, perturbée et nettement plus froide. Samedi, dès le matin, le ciel se dégradera et donnera lieu à des averses localement orageuses. Le gros des pluies passera dans l'après-midi. La dégradation sera décalée de quelques heures sur le Valais central. Un fort vent du sud-ouest soufflera en montagne, parfois en plaine. Il ne fera pas plus de 18 degrés. Dimanche, encore de fréquentes averses, surtout sur le versant nord des Alpes. La limite des flocons s'abaissera jusque vers 1400 mètres. Les maxima seront proches des 15 degrés en plaine.
La météo, offerte par les Cafés La Semeuse et leur boutique en ligne, lasemeuse.ch. Infotrafic RSR
avec le parking de la Riponne et son service Riponne Express.
Sur l'autoroute Lausanne-Genève, des colonnes sont constatées entre Récublanc et la jonction de Morges-Est en direction de Genève. En sens inverse, un autre accident bloque la voie de gauche entre Lausanne-Crissier et l'échangeur de Villars-Sainte-Croix en direction d'Yverdon. Et puis l'autoroute Neuchâtel-Yverdon sera fermée dans les deux sens dès 21h entre Areuse et Boudry ce soir. C'est la fin de cette édition de Forum. Je vous remercie de l'avoir suivi. Ismaël Gonzato et puis Philippe Vaudan étaient à la technique. On les en remercie. Demain, nous serons à Onet, la maison onésienne. Venez-y nombreux. Tous les grands rendez-vous d'information seront produits en direct d'Onet pour notre opération Génie Suisse en immersion. Il est 19h sur la première. Excellente soirée.